J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 14h, sur France Culture, donc à la Maison Ronde, le studio numéro 1. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, rien moins que ces animaux d'une importance extrême dans les écosystèmes, les vers de terre, les lombriciens, et avec un spécialiste qui a écrit un fort ouvrage, si on peut dire, en tout cas un long et détaillé essai. Il s'agit de Marcel Boucher. Et pour tout de suite respecter nos habitudes, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les coucous. Oui, les coucous. Comme on le sait, la plupart des coucous sont des usurpateurs. Ils déposent leurs œufs, dans le nid d'autres espèces d'oiseaux qui, le plus souvent, les acceptent, les nourrissent. Bref, nourrissent ces jeunes intrus au détriment de leur propre progéniture. Le merion superbe, alias, en termes de science, Maluris cyaneus, a trouvé une parade pour démasquer ces imposteurs. On ignorait jusque-là en quoi elle consistait. Et c'est par hasard qu'une équipe de biologistes de l'université de Flinders, en Australie, a percé le secret du merion superbe, une espèce qui est commune dans cette île continent. Les chercheurs ont placé des microphones sous des nids afin d'enregistrer les cris d'alarme contre les prédateurs, principalement d'autres oiseaux. Ils ont remarqué que les femelles chantaient régulièrement pour leurs œufs durant les derniers stades du développement des embryons. Puis, ces mêmes chercheurs ont enregistré le cri utilisé par les oisillons lorsqu'ils réclamaient à manger. Ce cri consistait en une seule note et à chaque couvée d'oisillons avait des cris différents. Ils ont alors constaté que le cri d'incubation de la femelle contenait le même cri. Les jeunes mérions utilisent donc un mot de passe appris de leur mère durant la couvaison pour s'identifier et obtenir à manger. Le coucou, lui, n'a pas le temps d'assimiler la leçon, car il sort de l'œuf au bout de 2 jours, contre 5 pour notre joli petit mérion. Pour savoir si ces similitudes de cris étaient génétiques ou acquises, les chercheurs se sont ensuite livrés à quelques manipulations. Ils ont échangé des œufs entre différents nids et découvert que les cris des oisillons ressemblaient davantage aux cris de leur mère adoptive, cette fois, qu'à ceux de leur mère génétique. Ainsi, les parents ne nourrissent pas les oisillons si les cris diffusés ne contiennent pas ce fameux mot de passe. L'acquisition du permis de manger relève donc bien d'un apprentissage. Mais si élaboré soit-il, ce stratagème ne permet de confondre que 40% de ces imposteurs. Car les coucous s'essayent malgré tout à imiter le cri de leur hôte et y parviennent souvent, malgré le temps d'apprentissage réduit. Fort, hein, ces coucous. Cette efficacité relative tient à plusieurs facteurs, dont la fréquence variable du chant des femelles durant la couvaison. Mais Maluris cyaneus risque aussi d'intéresser les chercheurs, et cette fois pour de toute autre raison. Des études récentes tentent à prouver que les nouveau-nés de notre espèce peuvent distinguer la langue de leur mère à la naissance. L'apprentissage a été suggéré comme explication, mais reste difficile à isoler d'autres facteurs. Or, les oiseaux sont un excellent modèle pour l'étude du langage chez les humains. Les couvées peuvent être facilement échangées entre mères. Nous pouvons démêler les comportements appris et innés chez ces embryons, ce qui serait très difficile, bien sûr, à faire chez les humains. Bref, entre tentatives d'usurpation des coucous et manipulation des biologistes, espérons quoi ? Eh bien que le merion superbe y retrouvera quand même ses petits. Bonjour Marcel Boucher.
Bonjour, c'est Denis Georges.
Alors je vais tout de suite vous donner du géodrillologiste. C'est ainsi que pour les fourmis, c'est les myrmécologues. Et vous, pour les vers de terre, les lombriciens, c'est les... Allez, je le redis une fois.
Géodrilologues. Ça se termine pas en gestant. Comme pour les myrmécologues, d'ailleurs.
D'accord. Ils sont aussi importants que ça ? Première question.
Les géodrilologues.
Non. Ce dont quoi s'occupent les gens de votre spécialité et qui ont votre passion, puisque vous avez fait un ouvrage absolument, enfin je vais dire complet, très très documenté.
Bon alors, le nombre de géodrilologues est extrêmement restreint, au niveau de la Terre entière. Il y en a, il y en a en, disons, en activité pleine, certainement de l'ordre de 10,
oh là là,
plus
oui,
quelques
bon.
Étudiants dispersés, en général fort peu encadrés,
oui.
Précisément parce qu'il y a peu de chercheurs. Par contre, les vers de terre, alors là, l'objet, c'est l'opposé, c'est l'inverse. Parmi les animaux, bah, ce sont, au moins dans les terres émergées, hein, je ne parle pas pour les mers,
bien sûr.
De très loin, les premiers animaux, en masse, au moins, et donc en activité dans les milieux où nous vivons.
Est-ce que on peut dire, là encore comme petite question préalable, et après nous allons rentrer dans le détail de ces annélides, dont j'ai eu beaucoup de mal à comprendre d'ailleurs le système de reproduction, tellement il est subtil et complexe, est-ce qu'on peut d'une certaine manière dire que face au rôle absolument essentiel que jouent ces lombriciens dans les systèmes, les écosystèmes, on est un petit peu devant l'exemple analogue à la menace faite sur tous les insectes pollinisateurs, qui fait que si on les perdait tous, à commencer par les abeilles, bien sûr, eh bien, à la limite, ça pourrait peut-être poser la question de la perpétuité de l'homme, cette espèce prédatrice sur la planète.
Oui, alors... c'est intéressant ça avec les pollinisateurs, parce que les pollinisateurs ne sont importants que depuis qu'il y a des plantes à fleurs.
Oui.
Ben oui.
Les anges.
Pas besoin de pollinisateurs, c'est pas de plantes à fleurs.
Oui.
Or cette affaire, je pense qu'on a, on date encore très approximativement, mais c'est du 150 millions d'années. Hein. Bon, les vers de terre, ils ont commencé leur œuvre dans la terre émergée. Hein, je me contente de ça. Il y a au moins 220-230 millions d'années. Donc, ils sont partis avant. Et leur rôle vis-à-vis des plantes est encore plus fondamental et plus important que cet acte de reproduction qui est essentiel hein, pour
bien sûr.
Pollinisateurs. Ça, je n'en discute pas. Mais voyez, dans l'évolution des groupes, et qui sont là des collaborations, hein, parce que les plantes collaborent avec les vers de terre et réciproquement, comme les pollinisateurs avec les plantes.
Hein. Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. C'est un commensalisme bien compris, d'une certaine manière.
Voilà, hein, exactement.
Vous acceptez le terme.
Et enfin, le résultat, surtout d'évolution très, très, très élaborée, alors beaucoup mieux connue, évidemment, dans le cas des pollinisateurs et des fleurs, puisque les uns et les autres sont étudiés. Ce qui n'est pas le cas des vers de terre, ni d'ailleurs des racines des plantes. Ça, c'est pas étudié. Ça.
Je suis vraiment étonné que la curiosité naturaliste n'ait pas porté à plus de spécialisation et de scientifiques cherchant, travaillant, essayant de comprendre quelle est cette junte souterraine qui est aussi importante. Petite citation que les gens que j'extrais bien évidemment, puisque vous le citez assez tôt dans votre ouvrage, Marcel Boucher. Petite citation tirée de Darwin. On sait assez peu, on sait même très souvent, pas du tout même, que Darwin, retour de sa circumnavigation de 5 ans, eh bien s'est intéressé aux vers de terre. Et il écrit la chose suivante que vous rappelez, les charrues, plutôt la charrue, pardon, est une des inventions les plus anciennes et les plus précieuses de l'homme, mais longtemps avant qu'elle existât, le sol était de fait labouré régulièrement par les vers de terre, et il ne cessera jamais de l'être encore. Il est permis de douter qu'il y ait beaucoup d'autres animaux qui aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation si inférieure. Bah vous ne changez pas une virgule, là, puisque c'est une amplification même.
Je ne change pas une virgule, mais je corrige une chose. Il est permis de douter que ces animaux... Enfin, je ne sais plus exactement la phrase.
Oui.
Darwin, à son époque, on ne massacrait pas les vers de terre.
Et oui.
Hein? Donc, on s'est servi des vers de terre. On en avait absolument besoin. Et l'agriculture était largement, sans le savoir, entièrement labouré par des vers de terre, un petit peu sarclé en surface avec des arrières qu'on a bien du mal à tirer avec des quelques animaux. Et donc, le travail animal des vers de terre, voire des chevaux hein, aussi, qui tiraient la charrue, hein, était très important. Bon, aujourd'hui, on préfère importer du pétrole, hein, fabriquer des tracteurs et retourner la terre à grands coûts et à grandes conséquences désastreuses. On sera amené à en reparler.
Hein. Ah oui, certainement, parce que nous allons diviser notre propos entre la description, pas simple d'ailleurs, et tout à fait passionnante, de ces animaux souterrains, et ensuite les conséquences, parce que il y a une espèce de cri sous-jacent à votre ouvrage, je peux le dire dès l'avance, dès à présent, c'est que d'écologie, on n'a pas compris quelque chose, hein, on n'a pas compris grand-chose en tout cas, et que très souvent, d'écologie, disparaît souvent le préfixe éco, hein, enfin passons.
Ça aussi, on y reviendra.
Bien sûr.
Mais bon, on ne s'est pas donné le mal de faire de l'écologie alors.
Bon, alors,
c'est tout.
Marcel Boucher, on va faire vite, mais on va faire vite en tout cas pour ce qui est de la généalogie de ces animaux, de ces annélides, de formes cylindrées qui viennent de la mer.
Oui, ils viennent de la mer et disons qu'on a la chance, parmi les tout premiers fossiles, hein, on dit ça la faune des Déacara, mais on a des traces avant, qu'on reconnaît des formes animales, elles sont toutes, on appelle ça énigmatiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les rapprocher vraiment avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Mmh. À une exception près, qui est précisément un ver, non pas de terre, mais de mer, qui est dans les sédiments. On voit à ces galeries, il fait déjà le travail d'un ver de terre, hein, et il a une organisation qui est déjà, au point de vue corporel, celle des vers de terre, c'est-à-dire une succession d'anneaux, hein, avec un mouvement serpentiforme, voilà, pour travailler les sédiments marins. C'est pas d'un sol au sens actuel.
Donc
voilà.
Sédiments marins plus mous.
Donc, on peut dire que donc les proto-vers de terre existent déjà. Et ils sont déjà à leur place, je dirais, très naturels d'ailleurs. Ils sont à la frontière des sédiments et de l'eau des océans et des mers, qui reçoivent les débris végétaux, essentiellement des algues hein, et des choses comme ça, qui tombent sur le sol, ils s'en nourrissent, ils activent déjà mécaniquement le sol. Donc c'est évidemment des développements qui sont très réduits. D'ailleurs, récemment, je suis très content qu'il y ait des géologues qui viennent de s'apercevoir que quand les animaux, et essentiellement à ce moment-là les vers, deviennent assez puissants pour travailler, d'un seul coup, les sédiments réellement actifs s'approfondissent et se développent. Alors ça, c'est plus tard, c'est vers les 350 millions d'années. Hein. C'est beaucoup plus tard, hein, parce que ce que je vous disais là au début, c'est 800 millions d'années. Vous voyez. Il a fallu beaucoup de temps pour
bien
que
sûr,
se développe.
Bien sûr, pour aller vite aussi, il faut évidemment sur les terres émerger la présence de plantes. Parce que ça va être absolument nécessaire dans le cycle de la consommation.
Oui.
Combien d'espèces de lambriciens sur la Terre ?
On n'en sait rien.
On ne sait pas.
On peut 700, avancer 7000. Des chiffres, on peut dire 10 000, comme ça. Comme il n'y a pas d'études. Le problème, c'est qu'on va faire tout un exposé, là, avant tout sur l'absence d'études.
Hein. Oui. Bon, alors vous l'avez dit, on ne le redira plus. Maintenant, on a compris.
Alors, comme il n'y a pas d'études, on a des bilans tout à fait restreints. Hein, en France, quand j'ai commencé, on en connaissait 25. On doit en être maintenant à 200 ou 250. Mais moi, je n'ai pas fait que cela. Faire de l'inventaire de vers de terre, c'est pas, ça n'a été fait que par contrainte. Je ne pouvais pas étudier les vers de terre de leur rôle sans les reconnaître. Donc, il m'a bien fallu en découvrir. Bon. Mais vous voyez, c'était pas, j'ai jamais eu vraiment de priorité de ce côté-là. Mais, par contre, j'ai fait un livre entier dessus.
Oui.
Parce que je découvrais, suffisait, je me baisse. Ça n'avait pas été vraiment étudié, si ce n'est en 1826, dans la région parisienne, par un certain De Savigny, que je salue, c'est lui qui avait décrit les toutes premières espèces. Ensuite, quelques études, mais vraiment ponctuelles. Voilà.
Bon, alors donc, l'inventaire n'est pas fait. Hein, donc on n'a toujours pas fini de faire l'investigation complète de cette biodiversité. En tout cas, il y a du boulot pour les vers de terre, on l'a bien compris, hein, pour les lambriciens.
Oui, exactement.
Alors, je vous propose tout de suite On passera après à de grandes innovations, et en particulier, il y en a qui sont absolument passionnantes, c'est le fait qu'il soit dans un milieu qui est meuble souvent, mais en même temps rigide, qui est une situation de galerie, puisque de toute façon, ce sont c'est des creuseurs, ce sont d'une certaine manière des mineurs, ces lombriciens. Mais avant tout, puisqu'ils sont hermaphrodites, j'ai lu avec attention, évidemment, ce que vous expliquez de l'accouplement de ces êtres à deux sexes, le mâle et femelle à la fois. Je vous demande une explication, s'il vous plaît, simplifiée, parce que c'est extrêmement dur, mais extrêmement dur.
Elle est à la fois...
Ça commence tête bêche, ça j'ai compris. Bon.
Non, mais attendez, on arrivera au tête bêche. Le tête bêche, c'est l'actuel.
D'accord.
Ben, je vais revenir au passé, si vous voulez. Quelque part dans le primaire, c'est-à-dire dans les 300 à 200 millions, même avant, 300, 350 millions d'années, les vers de terre, pas que, et ça se passe avant en fait, il y a déjà des vers qui quittent la mer, hein, puisque tout à l'heure on est resté dans la mer. Oui. Alors on va la quitter, on rentre dans les rivières, les cours d'eau. Et ce sont donc des vers qui s'habituent tout simplement à l'eau douce. À ce moment-là, ils rencontrent un sacré os. Quand ils sont dans la mer, ils se reproduisent de la façon la plus simple, et là tout le monde peut comprendre, les mâles lâchent leur sperme dans la mer, hein, et les femelles leurs ovules. Et ma foi, les spermatozoïdes, pas toujours au hasard. Oui. Aujourd'hui, c'est des fois très sophistiqué. Oui. Ils font des pariades nuptiales.
Enfin, oui, bon. C'est vrai. Les poissons le font d'ailleurs, ça aussi.
Mais, mais d'accord. Là, je ne vais pas parler des vers de mer. Bon. Donc, mais si vous voulez, le mode de reproduction, c'est ça.
D'accord. Hein.
Et ensuite, une fois que le spermatozoïde a fécondé l'ovule, y a une petite larve qui d'ailleurs souvent se balade dans la mer et va aller se fixer puis devenir un ver. Bon. Plus sédentaire. Quand ils rencontrent dans l'eau douce, il y a un problème, c'est qu'il y a des courants dans l'eau douce qui ramènent tous ces chers animaux qui veulent s'installer sur la terre ferme, les ramènent tout simplement dans la mer. Donc ils ne peuvent pas s'établir dans l'eau douce. Alors ils ont trouvé une méthode, un mode de reproduction qui là commence à être un peu plus compliqué, c'est qu'ils vont faire une enveloppe dans laquelle ils vont déposer leurs ovules, mais avant il a fallu qu'ils inventent autre chose, qu'ils copulent entre eux pour avoir le sperme du conjoint. Parce qu'il faut quand même se croiser, il ne faut pas que ça soit uniquement uniparental, un seul parent. Alors ce qui se passe aujourd'hui, j'arrive tout de suite au vers de terre moderne, ils commencent par se rencontrer bravement, s'accoupler, et ils font un échange.
Tête bêche.
Ils sont homosexuels. Hein. Y a un mâle qui donne le sperme à l'autre qui va le stocker dans ce qui s'appelle une spermathèque, comme bibliothèque. Vous voyez, c'est stocké.
D'accord. Après, il y a les spermaphores.
Et l'autre va en faire exactement autant, puis ils se séparent. Après, adieu. Et alors, s'étant séparés, alors là, ils vont passer à la fonction femelle. Ils ont une deuxième partie du corps qui est femelle, on peut dire, en quelque sorte, qui va produire l'ovule. Puis il y a une glande accessoire qui va faire l'enveloppe. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont pondre leur œuf, en général un, mais des fois plusieurs, dans la fameuse enveloppe. Ils vont mettre le sperme du conjoint qu'ils avaient gardé dans leur spermathèque. Ils vont lâcher tout ça à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est comme si c'était dans la mer. À part que c'est bloqué dans un cocon, que ça ne peut plus être entraîné par l'eau, et ça peut même rester dans la terre sans être détruit. C'est un petit monde, un petit microcosme où se produit cette fécondation. Et alors dedans, quand les vers de terre ont évolué, parce que les tout premiers, il n'y a rien à manger, si j'ose dire, alors c'est un peu compliqué. Mais ensuite, là, même maintenant, dans les vers de terre modernes, il y a toute l'alimentation qu'il faut pour le développement de la larve.
Bien.
Et quand la petite larve va sortir, elle fera sa vie d'adulte.
Suite donc, toujours en compagnie de Marcel Boucher, son ouvrage intitulé « Des vers de terre et des hommes », avec l'article masculin pour « des hommes » pluriel. Suite aussi, évidemment, de cette affaire d'accouplement pour l'instant, il y a quand même quelque chose, parce que vous dites, parmi les deux grandes innovations, il y a évidemment cette question d'hermaphroditisme, qui a comme fonction, d'une certaine manière, la biodiversité, d'éviter la consanguinité. C'est une manière essentielle, comme moteur évolutif, de jouer ça. Mais quid de ce clitellum, l'homme,
Le clitellum, c'est cette fameuse glande qui produit l'enveloppe et qui, quand il se modernise, va même produire la nourriture, ce dont je viens de parler. Hein. Voilà. Et alors, donc, le clitellum, alors le problème, si j'ose dire, au point de vue évolutif du clitellum, c'est qu'il prend de la place. Or, un ver de terre digne de ce nom vit dans la terre, et une terre souvent dure, indurée, etc. Là, il y a un problème de diamètre. S'il commence à se développer, donc, je dirais, en faveur de la génération suivante, c'est en détriment de l'adulte qui le développe, puisqu'il ne peut plus se déplacer dans ses galeries.
Oui.
Il y a donc toute une sélection naturelle pour adapter ça. Et alors, dans les premières, disons, les lignées que je sais maintenant être les plus anciennes, le clitellum s'est développé très en avant, au niveau des glandes sexuelles. Mais alors, voilà, petit problème, quand les vers de terre s'alimentent, ils sont obligés d'avoir un tube digestif quand même qui fonctionne et qui a sa place. Manque de chance, le clitellum empêche cette place. Autrement dit, les vers de terre étaient dans une situation évolutive, et sont, pour tous ces groupes-là encore, où le clitellum trop développé va à l'encontre d'une alimentation, notamment les feuilles coriaces, toutes ces choses-là, qui demandent une bonne musculature. Et alors, il y a eu un saut évolutif, un beau jour, le clitellum a tout simplement reculé. À ce moment-là, il peut y avoir les organes de reproduction, les organes de broyage alimentaire vers l'avant, et puis à l'arrière, le clitellum qui, lui, s'occupe que de l'ovule, que de, comment, du cocon.
Du cocon. Marcel Boucher, c'est une sorte de petite pompe pneumatique. Donc, on pourrait la décrire, parce que je trouve ça extraordinaire. Oui, bien sûr, le ver de terre.
Oui.
Il est donc formé d'un certain nombre d'anneaux successifs,
oui,
qui chacun a une petite porte, hein, que vous appelez évidemment un sphincter, avec un muscle qui permet d'ouvrir ou de fermer.
Oui.
Il faut imaginer la majorité des organes, en particulier ce qui correspond au cerveau, en tête de l'animal. Et évidemment, son appareil excréteur est au bout. Et là, c'est une petite pompe pneumatique qui permet de creuser la galerie. Alors je vous demanderai dans le même temps, parce que j'ai peur de perdre les détails, parmi les espèces de lombriciens, il y a ceux qui font des galeries verticales, parfois très profondes, 2 mètres, vous direz le nom. Certains font des galeries horizontales, peu profondes, et d'autres font des galeries horizontales aussi, mais un peu moins profondes.
Très modestes.
Voilà. Alors, le pneumatique, définition, parce que je trouve ça extraordinaire.
Le pneumatique le plus extraordinaire, c'est que c'est celui qui a décrit les vers de terre marins, vous voyez, 685 millions d'années, qui a découvert ça, et en même temps qui a décrit qu'ils étaient organisés déjà avec un système de pompes. Alors, il faut imaginer ça, comme je vous ai dit, des anneaux tout à l'heure. Bon, ce sont des pompes successives. Hein. Chaque anneau a des muscles extérieurs qui lui permettent de se contracter, et également de, bon, je simplifie, hein, de se décontracter. Quand il se contracte, il augmente la pression du liquide.
Bien sûr.
Et alors, comme il y a des sphincters entre chacun de ces anneaux, le liquide peut se déplacer, s'il est comprimé à l'avant, par exemple, vers l'arrière, pour gonfler l'arrière, et l'inverse. De sorte qu'un ver de terre qui avance aujourd'hui dans la terre, il a tous les... Je simplifie beaucoup, parce qu'en réalité, ça se fait par
Il faut
une
nous
succession.
Simplifier pour nous, qu'on ait une image.
Bon, alors, mettons, des segments qui sont à l'arrière, des anneaux qui sont à l'arrière, vont comprimer, envoyer de l'eau, donc c'est un système hydropneumatique, à l'avant, pour écarter le sol. Hein, parce que l'avant, par contre, va se dilater grâce à cette aide. Autrement dit, un ver de terre qui travaille dans le sol, c'est tout le corps qui travaille. Imaginez-vous que les muscles de vos doigts, hein, vous permettre de renforcer la plante de vos pieds. Ça paraît absurde pour nous. Eh bien, voilà, pas pour les vers de terre.
Eh oui.
Les vers de terre sont capables de mobiliser tout leur corps pour des actions, d'où leur puissance de travail.
Bien sûr.
Sinon, on s'expliquerait mal que ces animaux, finalement si primitifs en termes de temps, hein, mais encore un succès moderne, total aujourd'hui, c'est qu'ils ont trouvé une bonne combine. Et je vous dis, ça remonte à l'origine des mers, dans leur vie dans les mers.
D'accord. Alors Marcel Boucher, là encore, étonnement, grand étonnement, je finis par être dans un grand désordre de mon plan que je voulais systématique, vous voyez, parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Oui.
D'abord, chose tout à fait étonnante, les vers de terre choisissent leur nourriture. Bon, premier point, ne répondez pas tout de suite. Secondo, ils ont un gésier, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, ils font comme les poules. Et puis, par ailleurs, ils ont une autre manière de faire qui ressemble aux lapins, voire aux vaches. On sait que les lapins ont des fesses qu'il réingurgite.
Absolument.
Pour avoir deux transits, pour que
c'est bon. Je vois que vous avez tout compris.
Tout compris, non, parce que d'abord, c'est extrêmement étonnant que ces organismes qu'on pourrait dire primitifs et qui ne sont vraiment pas comme à chaque fois, d'abord, lorsqu'ils vont creuser évidemment leur galerie, à un moment, trouvent quelque chose qui est à leur goût. Et puis aussi, ils mettent quelques petits cailloux qui leur servent de d'embroyeuses.
C'est ça, exactement.
Bon
alors
compléter,
ça, c'est pareil, cette évolution, bon, elle est venue un peu plus tard que cette histoire de système hydropneumatique, mais au fur et à mesure qu'ils sont rentrés dans les terres, ils sont entrés sur des plantes coriaces. Au départ, ce sont des algues, puis ce sont des lichens, des choses très molles. Bon, donc les vers de terre sont avant tout des suceurs qui digèrent avec un tube digestif qui est tout soit un intestin qui suit tout de suite la bouche, quoi. Bon. Et lorsque le gésier va se développer, le gésier, c'est une énorme poche musculeuse. Hein. Donc, effectivement, ils avalent des petits cailloux qui vont servir, comme pour les poules, de dents. Les vers de terre n'ont pas de dents, les poules non plus, mais en fait, ils en ont. Hein. Et ils vont donc faire cette digestion grâce à ce travail musculaire du gésier. Et tout à l'heure, j'en avais parlé avec ce problème de clitellum qui était gêné d'être à l'avant. Et bien justement, le développement du gésier a été possible lorsque le clitellum a circulé. Et à ce moment-là, les gésiers sont devenus très puissants. Et alors, on va revenir aux vers de terre qui sont verticaux.
Oui.
Les fameux vers de terre verticaux
Dites-le, j'ai peur de me tromper.
Il s'appelle anésique.
Ceux-là, ils font 2 mètres.
Ça veut dire en grec qui monte au-dessus. Bon, là, s'ils montent au-dessus, ils redescendent aussi. Alors, ils ont des galeries qui peuvent être de 1,50 m, 2 m, 3 m. J'ai vu un jour dans une carrière jusqu'à 6 m de profondeur. Mais ce n'est pas le courant. Le courant, c'est 1,50 m, 2 m. Voilà. Alors, ces animaux-là sont devenus les plus importants en quantité parce qu'ils se sont parfaitement adaptés. Notamment, il faut imaginer que nos paysages étaient essentiellement des forêts. Et nos forêts ont des feuilles coriaces, hein, que ce soit des feuilles de chêne, des feuilles de hêtre. Je ne vous parle pas du chêne vert dans le midi, qui est coriace. Vous ne pouvez pas le casser, c'est infernal. Eh bien, vous les entendez manger, les vers de terre, imaginez-vous, ce n'est pas une galéjade. Ils montent la nuit, ils absorbent ces feuilles coriaces et ils les broient, tellement ils ont des muscles puissants. Et ensuite, le gésier. Ce n'est pas le gésier qui fait le bruit, mais c'est la bouche.
Ah non, mais là, ça m'a parfaitement étonné, parce que vous dites qu'une fois, voilà, moi-même, Marcel Boucher, j'étais dans une prairie, il y avait des vers géants de Montpellier, et j'ai entendu croc-croc, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de manger.
C'est donc,
à l'antenne, quelqu'un qui a entendu les vers de terre manger. C'était les vers géants de Montpellier. Bon.
Oui, qui sont, il faut quand même des animaux qui font 80 cm de long et qui font plus que la taille de mon pouce, hein, de 2 cm et demi de diamètre.
Hein.
Il faut imaginer un très gros ver de terre. Hein. C'est rien à voir avec ce qu'on connaît dans la région parisienne.
Alors il faut reverser la chose et aussi à ce moment-là, ils vont pointer vers l'extérieur leur appareil excrétoire. Leur anus.
Non, pas vraiment. L'excrétion, en fait, se fait tout le long du corps par des tout petits pores. Et chez tous les vers de terre. Donc ça, c'est discret, c'est pas un problème. Ce qu'ils vont mettre à l'extérieur, c'est leur anus, mais pour déféquer. Parce que ça alimente, c'est bien beau, mais il faut que ça sorte. Hein. Et alors là, ils prennent un risque, parce que bon, s'ils sont dans un sol qui a un peu de porosité, mais la porosité des sols, ça n'existe que grâce aux vers de terre. Donc eux-mêmes sont limités par leur propre travail. La vraie porosité, je parle. Hein. Qu'il y ait des facteurs de tassement, ne serait-ce que les pluies, etc. Mais ça, c'est très faible, mais ça existe. Mais le tassement des animaux, par exemple, dans une prairie, les vaches qui passent, hein, bon, ça tasse. Bien. À ce moment-là, les vers de terre qui sont dessous n'ont plus les pores pour se déplacer en écartant. Ils sont obligés de déféquer au-dessus. Et là, qu'est-ce qui les attend ? Les oiseaux, notamment. Mais énormément de prédateurs, plus de 250 de connus. En fait, il y en a des milliers qui se nourrissent des vers de terre et qui les attendent gentiment, quoi. Alors, autrement dit, pour un vers de terre, c'est une prise de risque que de s'alimenter en surface, d'abord, parce que là, ils vont s'alimenter en surface, et ensuite de déféquer. Alors, ils font ça en général la nuit, ou du moins dans la pénombre. Ça commence à 6 heures du soir, par là 7 heures quand la pénombre arrive, et jusqu'au matin, là, il y a une activité de surface considérable des anésiques. Alors, on n'a parlé que des anésiques, mais les endogées, c'est la même chose, mais à l'horizontale.
Oui.
Ils n'ont pas ces problèmes-là. Si ce n'est que eux, ils sont bien heureux de trouver les galeries qui ont été faites par les anésiques pour détasser le sol, car le sol est constamment en fonction d'être tassé. et la porosité des sols naturels, les sols qui n'ont pas été bousillés, c'est dû essentiellement aux vers de terre.
Alors on a oublié les épigées ?
Alors, les épigées. Alors les épigées, c'est une toute petite catégorie au point de vue masse et au point de vue activité dans nos écosystèmes. Hein, c'est 1% de la masse. Mais ce sont des animaux qui, alors eux, se maintiennent sous les feuilles d'arbres, dans les forêts. Hein. En général, ils sont forestiers. Hein. Sous les écorces d'arbres qui sont tombées, les troncs d'arbres tombés, on en trouve. Et puis, ils ont des fois des occasions, parce que quand l'homme a déforesté, a retiré les forêts, hein, bon, on a mis notamment des animaux. Alors, les bouses de vache, ils adorent. Hein. Il y a les bouses de vache, et ils vont de bouses de vache en bouses de vache pour se développer, se faire consommer largement par les prédateurs qui savent très bien qu'ils sont là, mais une reproduction intense. Alors eux, ils jouent une carte qui n'est pas tellement d'investir dans le travail du sol, ils ont une carte qui est d'investir dans la reproduction. Et ce sont des lapins, ce sont ceux qui se reproduisent le plus. Alors ça nous servira quand au niveau technique, on se servira de ces vers de terre à haute reproduction pour avoir des générations rapides.
Je ne suis pas sûr de tout à fait finir le portrait avec vous, mais est-ce qu'on peut dire que la majorité des organes, on va les dire sensoriels en tout cas, parce qu'ils sont tous aveugles, hein, je crois.
Oui, tous aveugles.
Oui. Sont concentrés dans les anneaux, les premiers anneaux, la majorité dans la tête, quoi, si on peut dire. De ce qui fait office de céphalisation, donc grosso modo du cerveau. Vous dites qu'ils sont très sensibles aux vibrations.
Oui, alors ça, c'est autre chose. Bon, ce qu'on a dans la tête, surtout, c'est des cellules photoréceptrices qui leur permettent de savoir justement le jour et la nuit. Oui. Et pour eux, ça a une grosse importance pour des tas de raisons, notamment échapper aux prédateurs. Bon, mais il y en a d'autres. Par exemple, pour s'adapter dans les rythmes des saisons, ça, j'ai découvert ça avec un collègue, d'ailleurs simultanément en Normandie, les vers de terre sont sensibles à la durée du jour.
Oui.
Quand la durée du jour est trop longue pour eux, ça veut dire durée courte de nuit, ça veut dire mauvaise période pour s'alimenter, ils se mettent en diapause et ils ne bougent plus. Attendent que ça passe. Bon, voilà. Autrement dit, c'est l'inverse de beaucoup d'animaux qui se mettent en diapause l'hiver à cause du froid. Ce n'est pas leur cas. Bon.
Alors, les insectes en particulier. Il y a des insectes.
Les insectes, les marmottes, tout ce que vous voulez. Ça, les loirs,
Pas les ours, mais enfin bon.
Pas les ours, dans la tête. Oui, là, je connais mal les ours. Hein.
Bon, je suis pas sûr. C'est pas une hibernation vraie, en tout cas, les ours. Bon, passons. C'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Là, on rentre dans un sujet.
Bon. Restons avec nos lombriciens chéris.
Même chez eux, c'est compliqué. Parce que ceux qui montent en surface, c'est ce que je vous décris. Puis ceux qui ne montent pas en surface, là, ils n'ont pas ces problèmes. Donc, ils ont d'autres rythmes. Voilà.
Marcel Boucher, vous avez fait en plus quelque chose qui m'a complètement sidéré, c'est que vous avez fait des microthermomètres.
Oui.
C'est lié d'ailleurs à ce que vous venez de dire d'une certaine manière, que vous avez introduit dans des lombriciens.
Oui.
Et en particulier, pour savoir, puisqu'ils sont homéothermes, ces animaux-là, hein, ils n'ont pas l'obligation, comme nous, de préserver une température constante.
Ils ne sont pas homéothermes, ils sont hétérothermes.
Ils ne sont pas nous, donc, dans l'obligation de toujours être à 37 degrés ou 40 degrés, comme les oiseaux. Donc, ils dépendent de la température environnante.
Ouais.
Vous avez mis des micros...
Thermomètre
dans des verres pour savoir à quel endroit il se mettait, parce qu'évidemment il y a un gradient de température variable dans une galerie qui plonge à 2 mètres ou 3 mètres sous la terre.
Bon, on abordera ça tout à l'heure quand on parlera d'écosystèmes, de ce qui se passe dans le sol. Mais une préoccupation constante que j'ai eue, parce que je suis un ancien aide de laboratoire et technicien, et pour moi savoir de quoi je parle et que ce que je mesure est très important. Bon. Or, on avait l'habitude, on a toujours l'habitude, hélas, elle est très mauvaise, de croire que l'activité des vers de terre, eh bien, mon Dieu, elle est régulée par la température, puisqu'ils sont hétérothermes, plus il fait froid, moins ils sont actifs, plus il fait chaud, plus ils sont actifs. C'est des idées très simplistes qui courent dans les institutions. On faisait des études au laboratoire, parce que pas au terrain, vu que c'est trop difficile, dit-on. Il fallait bien adopter une température de référence. Alors, selon qu'on était anglais, c'était à 2 pouces de profondeur, français à 10 cm, soviétique à 20 cm, n'importe quoi. Bon, alors, j'avais cette question de me dire, moi, de toute façon, je ne connais pas leur température vitale. Et un jour, comme ça, il m'est venu à l'idée d'aller rechercher un très vieux papier qui date de 1941, fait par un Allemand. Vous voyez, c'était pas dans une période glorieuse. Enfin, si, c'était glorieux, mais pas pour longtemps pour les Allemands. Et ce type avait fait une grosse ampoule de verre, une de ces grosses ampoules de verre, un petit peu comme on le trouve chez le pharmacien. Il l'avait rempli avec des produits chimiques, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans le détail.
Bien sûr.
Et tout simplement, ce produit se transforme en un autre et dépend de la température. Si la température augmente, la transformation se fait plus vite, s'il fait plus froid, moins vite, etc. Il avait eu l'idée de mettre ces ampoules-là dans des forêts, dans des prairies, pour voir la température, parce que ça a l'avantage, ça lisse la température. C'est-à-dire, on met ça, par exemple, je ne sais pas, un certain jour, et on revient 30 jours plus tard. Alors, ce n'est pas toutes les variations, c'est la réaction générale qu'on enregistre, température moyenne, en quelque sorte. Alors il avait fait ça, c'était un botaniste, il avait ses objectifs à lui. Et un jour j'ai eu l'idée de reprendre cette idée en tirant des tiges de verre ultra fines, de remettre ce produit. Entre-temps, on avait les progrès de la biochimie qui permettent de travailler sur des gouttes de liquide. Et d'introduire cela, parce que les vers de terre ont des pores dorsaux. Chacun de ces fameux segments ont un trou qui communique avec l'extérieur. Mais là, ça était bien commode parce que ça me servait de porte d'entrée. Je mettais cette ampoule et entre-temps, c'est encore toujours dans ces recherches visant à connaître le rôle des vers de terre, on avait trouvé un moyen de reconnaître les vers de terre au terrain, bon, qu'on mettait. Bon, de les colorer. En fait, c'était une méthode de coloration. On colorait d'abord les vers de terre, on leur mettait leur petite ampoule, on les mettait dans le sol, et puis alors on les recherchait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois plus tard, on les ressortait. Et au début, on a dit le système ne marche absolument pas. La température était constante à 12 degrés. Bon, ça voulait dire que bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, on avait vérifié au laboratoire dans les boîtes, ça marchait. Mais au terrain, ça ne marchait pas. Et puis, heureusement pour moi, la dernière date, les vers de terre en question ont été pris dans une diapo, c'est-à-dire arrêtent toute activité et s'arrêtent dans un niveau de sol.
Oui, c'est ça, un certain niveau.
Un certain niveau.
Oui.
Et quand on les a repris, c'était la température du niveau. Et ce n'était plus du tout 12 degrés, parce que là, ils ne bougeaient plus. Autrement dit, ils bougeaient. Autrement dit, les vers de terre qui ont ces fameuses galeries verticales, mais pourquoi donc? Quand on sait qu'ils ont presque toute leur activité près de la surface, qu'ils se reproduisent près de la surface, que presque tout est en surface, pourquoi faire des trous en profondeur? Eh bien, tout simplement pour aller chercher les niveaux de température, ils règlent leur température. C'est ces animaux qui sont fondamentalement hétérothermes sont en fait, comme nous, homéothermes. Ils marchent comme une température, en l'occurrence 12 degrés, quand ils sont en activité. Voilà.
France Culture, Continent Science.
Stéphane Delisgeorges.
Eh bien voilà, largement passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, intégralement dévolu aux vers de terre et aux hommes d'ailleurs, qui les piétinent allègrement, et toujours en compagnie bien sûr de ce spécialiste des lombriciens qu'est Marcel Boucher, pour son livre « Des vers de terre et des hommes » qui a été publié aux éditions Actes Sud. Alors, petit rappel, là encore, il faut savoir que des centaines de tonnes à l'hectare, des dizaines de kilos au mètre carré sont triturés chaque année dans les sols fertiles de la Terre. Bon, ce chiffre suffit à lui-même hein, pour montrer l'importance, bien évidemment, des commensalismes réciproques. Hein, parce que quand on a une terre bien aérée, ça pousse mieux, n'est-ce pas,
oui.
Ce qui est dessus. Hein, donc, on peut comprendre. Alors, il y a une chose qui est assez étonnante dans une de vos pages. C'est que vous dites que, par exemple, pour décrire une motte de terre, ben, c'est très difficile. Et en particulier, parce que même si on concentre tous les spécialistes possibles, tous les podologues, ou les pédologues, excusez-moi, ceux qui s'occupent de c'est la science de la terre, hein, ou du sol. Bon, si on concentre les spécialistes de toutes les strates de pédologie, ça ne marchera pas, il ne va pas y avoir d'œuvres de ils ne vont pas marcher de conserve. Et ça, c'est une des plaintes permanentes qui vous tient très à cœur, puisque vous voulez qu'on réserve quand même du temps pour pouvoir expliquer ça.
Oui.
D'écosystèmes bien compris et de travail adapté aux écosystèmes, eh ben, il n'y en a pas lourd, dites-vous.
Non, il n'y en a pas lourd. Et d'abord parce qu'on ne travaille pas sur les écosystèmes, c'est très simple. Alors, on commence par ignorer la définition de l'écosystème. Elle a été donnée par un Anglais qui s'appelle Tinsley en 1935 par réaction avec le fait que les biologistes avaient l'habitude de ne parler jamais que des relations entre organismes. Hein. Les herbivores mangent de l'herbe, les carnivores mangent... Voilà, ce genre d'histoires qui sont largement fausses d'ailleurs quand on regarde de trop près. Et, ou du moins insuffisante, et en tout état de cause, est-ce qu'un ver de terre est un herbivore, un carnivore, etc. C'est une absurdité. En réalité, Tinsley, bien avant moi, donc je n'étais pas né, a proposé la notion d'écosystème qui implique explicitement et par réaction contre ces approches de considérer les parties non vivantes du système dans lequel nous vivons simultanément avec les parties vivantes. Et le sol, c'est ça.
Les cailloux.
Une motte de terre, c'est ça. Il y a des racines, il y a tout ce que vous voulez, ça c'est vivant. Hein. Mmh. Il y a éventuellement un ver de terre, il y a quelques autres micro-arthropodes et autres choses. Il y a des milliards de micro-organismes là-dedans.
Des virus.
Il y a tout ce qu'on voudra, des virus si on veut. Il y a
bactéries.
Tout. Bon, il y a beaucoup de matières organiques mortes et non pas vivantes.
Oui.
Et il y a énormément de minéraux. Bon. Hein, les rapports sont même affligeants quand on prend un champ. Si on prend le champ qui est labouré, on a 3500 tonnes de terre. Hein. Mais dans cette terre, il y a 440 tonnes de matière organique morte, toujours pas vivant. Le reste, c'est du minéral. Puis, il y a 20 tonnes... Attention, je ne parle qu'en matière sèche en ce moment. Hein. Il y a 20 tonnes de plantes et puis il n'y a pas une tonne d'animaux. Hein. Les vers de terre représentent 150 kilos. Là, ces poids-là sont donnés à l'hectare. Bon. C'est-à-dire que les organismes représentent très peu de choses. Alors ça, c'est une vision qu'on n'a pas. Et quand on étudie un sol, eh bien, comme on ne voit rien, on ne voit que toute la surface, toutes nos constructions intellectuelles, y compris celle de Darwin. Darwin a fait un énorme travail, mais toujours limité à la surface du sol, pas ce qui se passe dedans. Alors, tout à l'heure, je vous ai détaillé un peu trop longuement comment j'avais été mesurer la température, mais avec le même système de coloration, j'ai utilisé des vers de terre où j'ai remplacé l'azote habituel, l'azote 14, par de l'azote 15.
Mmh.
Bon. Puis je les ai mis en place et je les ai laissés fonctionner dans la nature, toujours aussi naturellement, dans leur galerie à eux, tout normalement. Et il faut savoir qu'ils assimilent de l'azote 14, l'azote naturel, ils perdent leur azote 15 et ça permettait de calculer la vitesse de transfert dans leur corps de l'azote. Bon, c'est la première partie du cycle de l'azote qu'on a mesuré dans un sol. Nulle part, il n'y a aucune mesure quantitative. Puis mieux que ça, la chance a voulu, j'étais dans une situation, j'ai pas le temps de détailler, c'est expliqué dans le livre, j'ai pu voir cet azote passer dans le sol et rentrer dans les plantes et se retrouver en totalité dans les plantes. Et les quantités en jeu sont énormes. Bon, alors ça, c'est un premier truc. J'y reviendrai sur les quantités d'azote. Deuxième type d'expérience, tout à fait pareil, qui ouvre notre vision du monde. J'ai eu l'idée un jour de leur donner un aliment repérable. Oh, c'est du son, vous savez, le son de meunerie.
Oui, bon. Ils aiment bien ça. Hein.
Ah, ils adorent ça.
Oui.
Alors, je leur donne ça pendant la journée où ils ne viennent pas manger en surface. Et puis, dès la pénombre, on les attrape successivement. Et on regarde à quelle vitesse parce que le son n'est pas digéré complètement. On peut donc le reconnaître dans le tube digestif et on voit le son qui avance dans le tube digestif. Du coup, on peut calculer la vitesse de la terre dans le tube digestif des vers de terre. On peut l'extrapoler aux populations. On peut connaître les tonnes. Et tout à l'heure, vous avez parlé de tonnes. Je suis le premier à avoir mesuré le tonnage de terre effectif. Avant, ce sont des élucubrations. Moi, c'était au son des mesures. On peut les refaire. Hein. Bon, alors, les fameuses 300 tonnes de terre à l'hectare qu'ils ingèrent par an et qu'ils digèrent contiennent notamment ce qui est hallucinant pour l'agronome de base. 2,5 tonnes, enfin j'arrondis, c'est 2,3 tonnes, je suis arrivé dans mes calculs, d'azote. Or, quand on sait que les agriculteurs dans les champs mettent dans les champs de céréales 250 kilos, c'est-à-dire le dixième de ça. Hein, alors on se dit, mais c'est pas possible. Bon, mais si, c'est possible. Encore faut-il comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. C'est trop long à expliquer ça. Mais c'est simplement une illustration que on ne connaît pas nos écosystèmes, là où nous vivons, là où nous agissons, c'est gravissime. On ne connaît pas les mécanismes qu'il y a dedans, que, en conséquence, quand on fait actuellement des évaluations environnementales, on ne sait pas de quoi on parle, parce qu'on ne sait pas donner le mal, tout simplement de comprendre comment fonctionne réellement une forêt, mais en tenant compte du sol. Et souvent, les tonnages, les importances et tout, notamment dans les prairies, là j'ai pu y travailler plus à fond, sont largement dans le sol et échappent totalement à la connaissance officielle.
Ah, vous avez été sollicité par une commission ou une sous-commission, je ne sais plus exactement, européenne, d'évaluation, en particulier de la toxicité. Vous vous êtes retrouvé évidemment le seul spécialiste des lombriciens, vu le nombre que vous avez donné, hein, de la sociologie de la profession, c'est pas étonnant. Hein. Et alors, donc, cela dit... par exemple, puisqu'il va bien falloir que, malheureusement, le temps tourne, qu'on commence à regarder les choses qui sont négatives. Quand, en particulier, ça m'a frappé, vous parlez donc de labourage mécanique profond, ça a pour conséquence, en particulier, de faire remonter beaucoup de pierres.
Ben oui, quand on, avec un tracteur, oui, oui. Un ver de terre, jamais.
Oui.
Ben, il ne remonte pas les pierres.
Oui.
Au contraire, il les enterre. S'il y a des pierres en surface, comme il crotte en surface, il fait descendre les pierres. Et ça, Darwin avait fait des mesures de temps, justement, sur ça. Il a noté cette chose-là. Non, c'est, ça fait remonter les pierres, mais ça fait remonter également de la terre quasi stérile, hein, puisqu'elle n'a pas d'activité biologique pour l'essentiel.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, là, en particulier
des études sur le fonctionnement des sols. Hein, j'ai commencé, là. Mais il y a tout à faire. Hein. Et ce n'est pas un chercheur qui, à titre d'ailleurs partiel, parce que je n'ai pas fait que ça, hein, travaille là-dessus. Alors, quand vous parlez des problèmes de toxicologie, en fait, pas d'écotoxicologie, c'était d'écotoxicologie. La Commission européenne, à juste titre, s'est inquiétée du fait qu'il faudrait qu'on évalue les effets des pesticides dans nos écosystèmes. Quand je suis arrivé dans cette commission, il y avait autour de moi des toxicologues, ce qui n'est pas la même chose, des gens qui étudient les toxiques au laboratoire dans des petites boîtes ou dans différents machins en verre. Bien, alors eux, ils regardent, ils ont raison, les effets, les doses effets des produits. Dans ces conditions-là, ils savent travailler, ils savent raisonner. En plus, c'est fort bien. J'ai appris beaucoup d'eux. Mais quand je leur ai dit que l'écotoxicologie, c'était dans les écosystèmes, ben là, j'ai fait un tremblement de terre, parce qu'ils en étaient évidemment incapables, même incapables de raisonner sur ce qui se passe dans un champ. Or, les tests d'écotoxicologie, alors j'étais également le seul qui connaissait les vers de terre, qui leur a dit « mais vous mélangez plusieurs espèces dans vos tests ». Enfin bon, je suis obligé de résumer, parce que c'est une aventure qui a duré, ça. Bon, puis j'ai finalement abandonné complètement de travailler avec de tels gens qui, de toute façon, étaient les seuls capables de produire des résultats, et pour cause, ils étaient totalement faux, mais faciles à faire. Hein. Bon, ça, moi, ce que je disais, ça demandait de faire des études. Alors ça, surtout pas. Bon, le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on autorise les pesticides sans regarder les effets effectifs sur la première masse animale de France, les vers de terre, mais également sur les autres organismes. Après ça, vous entendez les apiculteurs qui protestent parce que les abeilles meurent, alors que les tests n'ont rien montré de tel. Hein ? En fait, ce sont des tests bidons. Alors là, c'est parce que c'est de l'anti-science, tout ça. On parle soi-disant d'écotoxicologie, mais on ne fait que de la toxicologie, ce qui n'est pas la même chose du tout. Bon. Et à partir de là, on ne développe pas les méthodes. C'est la même chose pour le fonctionnement des sols. Les pédologues étudient les sols en les décrivant d'ailleurs fort bien. Hein. Moi, je m'appuie sur eux. Mais c'est du descriptif. Ça ne fonctionne pas, leur sol. Ce sont des images, quoi, des arrêts sur images. Mais il n'y a pas le film. Hein, on ne voit pas du tout comment ces sols fonctionnent. Et ça, ils n'ont pas les outils. On n'a pas créé les outils. Moi, avec mes petites histoires de vers de terre, où j'arrive à mesurer ce qui passe dans leur tube digestif, où j'arrive à voir la quantité d'azote, hein, qui est énorme, de 2,3 tonnes, c'est absolument hallucinant pour les gens qui parlent. De... Alors, dans les livres, dans tous les ouvrages, vous trouverez un cycle de l'azote. Hein. Eh bien, vous ne trouverez jamais dans le cycle de l'azote un vers de terre.
Mais là, je suis extrêmement troublé à vous lire, hein, voilà. Marcel Boucher, parce que vous dites, parfois, les observations sont bien faites. Là, vous venez de faire un petit rectificatif en disant, bon, il y a une image statique du truc, ils ne rendent pas l'histoire. Mais vous allez encore plus loin, c'est que vous dites que, grosso modo, tous les schémas interprétatifs, et qui sont des sortes d'élucubrations, à votre sens, ouais. D'analyse des écosystèmes, tiennent pas debout. Ils sont comme
ils
des
sont
fissions intellectuelles.
Les faits.
Et c'est plus grave que ça, ce que vous dites. C'est
ils
que vous dites qu'on n'enseigne pas ça dans les écoles d'agronomie.
Non, mais on ne peut pas l'enseigner. Enseigner quoi ? Il faudrait qu'on ait étudié. Il faudrait se poser les problèmes. Par exemple, le mot écologie, il n'y a pas qu'en agronomie. Bon, le mot écologie, bon, que vous entendez tous les jours, hein, bon, n'est jamais employé dans son sens. C'est quand même pas un accident. Et même à la faculté des sciences. Hein, à l'école normale supérieure, qui n'est pas loin d'ici. Bon,
oui, pour... hein,
bon le mot écologie, ce n'est pas moi qui l'ai défini. C'est un certain Haeckel en 1866. Je n'ai pas pu lui dicter cette définition. Il a dit c'est la science globale. Il a bien dit globale des relations des organismes avec leur milieu extérieur. Le mot milieu extérieur est employé au sens le plus large du terme. Ça, on ne le dit jamais aux étudiants parce qu'on ne pourrait pas leur faire d'enseignement là-dessus.
D'accord.
Parce qu'une science globale, on ne sait pas faire. On sait faire des sciences spécialisées. C'est le coup de la motte.
Oui. Hein,
tout à l'heure.
Alors, pour finir, et là, ça va être en rafale vu le temps qui nous reste. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui veulent faire une agriculture biologique et qui font du lombricompostage? Vous dites qu'il y a des margoulins là-dedans parce que ils prennent des vers de fumier.
Les margoulins ne sont pas ceux qui font du lombricompostage, mais ce sont ceux qui font de la lombriculture. C'est un peu différent.
Oui, c'est ça. Bon,
c'est la même chose. Hein. Dans les deux cas, c'est de la matière organique avec des vers de terre dedans qui se reproduisent.
Donnez-vous
beaucoup.
Vite le message parce que j'ai encore d'autres questions.
Oui, très vite. Lombriculture pour fabriquer des abats pour la pêche, ok. Mais pour dire qu'on a des vers de terre qui vont pouvoir rentrer dans les champs et être utiles à améliorer l'état des champs qui actuellement est effectivement désastreux, ça c'est une escroquerie. Hein, parce que ce ne sont pas les vers de terre qui labourent les sols. Voilà. Vous savez, ce sont les fameux épigées qui ont un rôle très minime dans la nature.
L'intérêt du compostage, puis après je sais que vous allez
faire
en colère.
L'intérêt du compostage, c'est de faire un humus de qualité quand il est bien fait.
Bon. Hein.
Mais tout dépend comment c'est fait.
Pourquoi est-ce qu'on trouve des vers rouges au fond assez rapidement quand on fait du compostage? Il y a des vers rouges en grand nombre.
Mais ce sont des vers rouges. Hein.
C'est ça.
Oui, ce sont les lombriciens rouges.
D'accord.
Ce sont les fameux épigées là, de surface, mais qui se retrouvent au fond, essentiellement.
Bon, on va finir. Vous avez deux minutes pour nous expliquer pourquoi le triage, c'est n'importe quoi, c'est mal fait, c'est difficile, c'est
le triage des ordures.
Le triage des ordures.
Oh, tout simplement parce qu'on n'a pas regardé ce que c'était que des ordures. On ne s'occupe pas du traitement des ordures en tant que tel. Et pour commencer un traitement de quelque chose, il faudrait déjà l'étudier. Bon, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons de loi, de pression sociale, on a fait des lois qui obligent d'ailleurs les maires, etc., à être responsables des collectes et tout. Il y a des entreprises qui s'amènent et qui disent « moi, j'ai un procédé ». Et le procédé, c'est ou foutre le feu dedans, hein, ou mettre ça en tas dans un coin, ça s'appelle des stations techniques, n'est-ce pas, de dépôt, etc., ou encore de faire de la méthanisation, comme ça. Alors, comme ça marche jamais, ces choses-là, on demande aux gens de faire le tri eux-mêmes, hein, pour qu'effectivement, les fractions qui sont soumises à ces procédés qui n'ont jamais été vraiment étudiées ni mis au point sérieusement, bon, parce qu'une fois de plus, on ne veut pas se donner le mal de poser les problèmes sur une base rigoureuse de science. Et là, je vais peut-être glisser un mot, quoi, pour dire
faites,
que
faites.
Cette permanente dénonciation que je fais des carences de nos institutions scientifiques. J'espère qu'un directeur, ou du moins un responsable, si ça existe dans ces institutions, qui s'intéresse à l'agronomie, à l'environnement ou à l'écologie, m'entende. Et on peut aujourd'hui, avec les moyens notamment de l'intelligence artificielle, mais appliquée au système complexe, on peut aujourd'hui avoir des démarches rationnelles dans tout ce que je viens d'évoquer, malheureusement trop superficiellement. Et ça, je l'ai décrit dans un livre. Je peux
oui, c'est moi qui vais te dire le titre du livre,
bon,
ce sera plus facile.
Bien, c'est gentil.
Mais en tout cas, vous voyez que le sujet est d'importance et avec un grand format comme nous l'avons, hein, qui est celui de tous les rendez-vous science, hein, il y aurait encore à dire. Donc, c'était tout sur les Lombriciens, titulé en tout cas pour l'ouvrage « Des vers de terre et des hommes » avec un sous-titre « Découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l'énergie solaire ». Évidemment, puisque tout vient du soleil et tout vient des plantes qui, comme on sait, marchent avec le soleil. Le tout publié dans un livre de forte pagination, pardon, aux éditions Actes Sud. Et puis l'autre, le second, toujours de Marcel Boucher, qui s'intitule « Pour un renouveau dans l'environnement, de l'anti-science à l'intelligence artificielle des systèmes complexes ». C'est dans une collection qui s'appelle « Biologie, écologie, agronomie ». Et c'est aux éditions L'Harmattan, en tout cas donc le premier chez Actes Sud et le second chez Harmattan. Nous voilà au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci bien sûr de votre fidélité. Aujourd'hui, aux manettes, à la technique, Élise Leu. Brigitte Masson, Denis Journeau, Stéphane Delis-Georges. Continent Science, comme vous le savez, est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez bien sûr au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science. Vous avez ainsi la possibilité d'une plus grande liberté pour nous télécharger le temps de plus qu'une grande année. Demain, à la même heure, vous retrouvez René Friedman pour les révolutions médicales, quant à nous, bien sûr, en ouverture de semaine. Même lieu, même heure pour Continent Science. Il me reste à vous souhaiter un très très bel après-midi sur France Culture.